Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dans 2-3 jours, sauter sur Papa Man, peut-être que ça va marcher. Voilà. C'est toujours d'une grande spontanéité, les rapports. Ça, c'est dur à accepter. Il y a des jours où ça colle avec les envies, mais il y a des jours où... Bon, allez, faut y aller.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole à celles et ceux pour qui l'accès à la parentalité ne se passe pas comme il se l'était imaginé. Aujourd'hui, nous prenons le chemin de la Drôme et partons à la rencontre d'une dessinatrice aussi anonyme que populaire. J'ai nommé Maman sa mère. Si vous avez d'ailleurs un compte Instagram et que vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller faire un petit tour sur son compte, vous ne le regretterez pas. Au menu des dessins de maternité, de postpartum et de PMA, aussi juste que décapant de vérité, et ça, ça fait sacrément du bien. Dans ce nouvel épisode, Maman sa mère me raconte son coup de foudre pour Papa Man et sa rencontre digne des plus grands films hollywoodiens. Je vous préviens, ça vaut le détour. Son diagnostic SOPK à l'âge de 15 ans et son parcours sinueux pour devenir maman de bébé va quelques années plus tard. Elle nous parle de ce syndrome si mal compris et peu connu que celui des ovaires polykystiques, de ses fameux tests d'ovulation sans cesse positifs et de son parcours en PMA, mais aussi des pauses nécessaires pour se préserver et parfois se recentrer sur l'essentiel, ainsi que sur les professionnels non médicaux qui l'ont aidée à y voir plus clair. Elle nous raconte aussi comment un soir de juin de l'année dernière, elle a décidé de lancer ce fameux compte Instagram dont je vous parle justement, pour libérer la parole autour de tous les sujets qui touchent finalement à la maternité, avant et après, et qui s'adressent donc à toutes les femmes. Un bel épisode avec une invitée aussi douce que pétillante, alors c'est parti, je vous souhaite une belle rencontre avec Maman sa mère. Bonjour Maman sa mère, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien et toi?
Ben, ça va super, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. D'où est-ce que tu nous parles?
Alors moi je suis dans la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Montbrun-les-Bains, où il y a je crois 450 habitants, quelque chose comme ça.
Sympa, d'accord, ça doit être sympa la Drôme, surtout en ce moment-là, cet été, ça doit être un coin plutôt charmant. Je t'ai découvert sur Instagram il y a, je ne saurais pas te dire, il y a à peu près un an, j'imagine, puisque tu viens de fêter les un an de ton compte, donc pas plus
ouais,
que ça.
Ouais.
Et en fait, on est devenus maman presque au même moment. Du coup, je crois que tes dessins ont beaucoup résonné avec moi. Mm-hmm. Et puis, j'ai découvert quelques mois plus tard que toi aussi, en fait, tu étais passée par un parcours bis, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, ça n'a pas été aussi
un
simple que prévu de devenir maman. Exactement.
Ouais, c'est vrai que ça serait, ouais, ça serait un dessin sympa à faire, tiens, d'ailleurs, ça. Un itinéraire bis.
Un itinéraire
bis. La voie vers la maternité, ouais. Un petit labyrinthe ou quelque chose comme ça, ouais.
C'est ça, exactement. Il y en a pour qui c'est direct et puis il y en a pour qui c'est un petit peu plus long. Mais c'est super puisque tu y es arrivée, puisque bébé va a rejoint ta vie, donc pareil, du coup, il y a à peu près un an. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas justement, qu'est-ce que tu fais sur ton compte?
Sur mon compte Instagram, donc Maman sa mère, je dessine des petites scènes de la maternité, de la grossesse et de la parentalité. À 90%, c'est pas mignon, rose bonbon et chamallow, c'est plutôt la vraie vie, les petites galères et voilà. Du type slip filet quand on sort de la maternité ou ce genre de choses.
La maternité sexy. La vraie
voilà,
maternité,
c'est ça.
Finalement.
C'est ça. Exactement.
Ouais, hors des magazines glamour. Très bien.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est rafraîchissant. Je pense qu'on s'y retrouve toutes. Et tu fais ça avec beaucoup de talent et beaucoup d'humour aussi. Hein. Faut être honnête, on rigole quand même beaucoup sur ton compte.
Merci.
Voilà. alors, il y a quelques mois, j'avais découvert aussi donc que tu étais donc toi aussi passée par un parcours de PMA. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu en quelques mots comment est-ce que tu as rencontré le papa de bébé Va et comment est-ce que le désir d'enfant vous est venu?
Alors, comment j'ai rencontré Papa Man? Papa Man,
pardon.
c'est pour Superman, Wonder Woman et donc Papa Man. Voilà. voilà, normal. Papaman, je l'ai rencontré lors d'une soirée de danse, parce qu'on danse tous les deux, principalement la salsa. Et il dansait et je l'ai invité à... Voilà, je suis allée le voir pour l'inviter à danser. Après avoir regardé pendant 3 bons quarts d'heure s'il n'était pas accompagné. Parce que je suis plutôt du genre...
Avant ce cours de danse?
Pas du tout, je le connaissais pas. J'ai eu un vrai coup de foudre pour lui et... Et voilà, j'ai mis longtemps à me lancer pour juste l'inviter. Parce que je suis très timide dans la vraie vie, en fait.
Ah oui, c'est vrai qu'on s'imagine pas du tout ça. Avec ton humour décapant, on s'imaginerait pas du tout
réservée. Je suis plutôt réservée, calme, dans la vraie vie. Voilà.
Effectivement, d'accord. Et alors, du coup, Papaman, il a accepté tout de suite?
Oui, Papaman, il est comme moi, il est assez réservé aussi. Et du coup, on a juste dansé et on s'est pas parlé, si ce n'est qu'il m'a donné sa ville et depuis combien de temps il faisait de la salsa. Et puis après, il est parti.
On m'a demandé de danser, il m'a pas demandé de donner mon nom.
Non, il est parti, il est vraiment parti de la soirée. Oui. Et moi, avec juste ces informations-là, à l'époque, je travaillais en restauration et j'ai posé tous mes congés en fonction des soirées salsa qu'il y avait dans la région. Et j'ai fait toutes les soirées salsa pour voir si je le retrouvais. Et je l'ai retrouvé, hein.
Ah ouais, non mais t'étais sérieuse, quoi, d'accord. Donc j'ai eu un coup de foudre, je vais retrouver ce mec, quoi.
Ah oui, c'était vraiment ça. J'ai eu un coup de foudre, je vais le retrouver.
Voilà. Ça pourrait être un film, c'est excellent ça, d'accord. Okay. Ça a été compliqué de le retrouver?
Je l'ai retrouvé au bout d'un mois, je crois, à la troisième soirée. Et il se souvenait que de moi, donc voilà.
Donc t'as eu raison de persister, quoi.
J'ai eu raison de persister, ouais. Okay. Belle histoire.
C'est clair, c'est rigolo. Et alors, dans l'histoire de votre couple, est-ce que l'envie de devenir parent est venue rapidement ou pas du tout?
On s'est rencontrés en 2010 et on a mis en place le projet bébé en 2013.
Et vous êtes arrivés à la conclusion que vous étiez prêts à vous lancer dans ce projet tous les deux à peu près au même moment, ou c'est vrai qu'il y a quand même dans la vraie vie, ouais. On n'est pas toujours en synchronicité au sein du couple. Il y en a parfois
qui a envie avant l'autre, ouais.
Voilà.
Non, c'est venu, je me souviens pas qu'il y ait eu de grandes discussions à ce niveau-là. Je crois qu'on était très synchro et très raccord au même moment.
Ok, bon, bah super. Mmh. Pas de problème de santé particulier. Enfin, je veux dire, vous vous lancez en disant, sans inquiétude aucune, j'imagine?
Oui, on se lance sans inquiétude et puis on se lance pas dans l'urgence. C'est-à-dire que, voilà, moi, j'arrête ma pilule et puis on se dit, ça marchera quand ça marchera, voilà. Il y a pas d'urgence ou de deadline ou de... il y a pas d'attente urgente.
Avant d'avoir à en passer finalement par la PMA, ce qu'on sait de la PMA, en tout cas moi je sais que c'était un petit peu le cas, c'est que ça peut vite virer obsessionnel en fait. Et quand on n'est pas du tout passé par des parcours comme ça, c'est un peu effrayant en fait. Et j'ai l'impression que du coup qu'on se dit beaucoup en prévention, je dirais presque, de ces parcours. Oh là là, en tout cas, moi, je vais faire attention. Je veux vraiment pas que ça devienne la seule chose finalement qui drive notre
vie. Ouais.
Et en fait, c'est un peu une douce, un doux euphémisme, hein, parce que c'est impossible de ne pas y penser, quoi. On a envie de pas y penser, mais c'est pas évident. D'accord. Alors du coup, donc vous vous lancez donc dans vos essais bébés naturels à la cool, donc no stress. Cette phase du coup dure combien de temps?
Elle dure assez longtemps parce que moi mes règles après arrêt de pilule, elles ont mis je me souviens plus exactement, mais entre 6 et 8 mois à revenir. Donc
ouais.
Donc du coup bon.
Ah ouais, c'est un peu dur de calculer quoi que ce soit, j'imagine.
Ouais, voilà. Donc là on calculait rien du tout, puis ça. Je savais que ça ne pouvait pas fonctionner puisque j'avais pas mes règles. Donc bon, voilà. Mais je savais que ça mettait du temps à revenir. Je me suis pas inquiétée plus que ça.
Donc du coup, au bout de 6-8 mois, t'as eu tes règles qui sont arrivées, ou finalement c'est parce que t'es allée voir un professionnel? Comment ça s'est passé?
Alors j'ai mes règles qui sont arrivées et quand elles sont arrivées, j'ai laissé quelques cycles passer, sachant qu'entre quelques cycles, comme j'ai les ovaires polykystiques, il y a 2-3 mois entre chaque cycle. Dans mon cas. Non, j'avais pas percuté encore.
D'accord.
J'avais pas percuté dans le sens où j'ai été mise sous pilule à 15 ans pour réguler mes cycles qui étaient déjà complètement désordonnés à l'époque. Et donc depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de prendre la pilule On m'avait diagnostiqué ovaire polykystique à mes 15 ans quand on m'avait mis sous pilule, mais on m'avait pas expliqué ce que c'était, ce que ça impliquait. On m'a dit c'est bénin, prenez cette pilule pour réguler vos cycles et puis basta.
Voilà. Elle est simple. J'ai exactement la même histoire. Moi, c'était à 14 ans, mais exactement la même histoire. Et c'est à 30 ans qu'on m'a dit, mais en fait, si ça se trouve,
ça se trouve, c'est... mais en fait, c'est peut-être pour ça.
Donc toi non plus, tu savais pas ce que c'était, quoi. Enfin, tu savais pas ce que ça pouvait non plus engendrer en termes de...
Oui, voilà, je savais que j'avais ça dans un coin de ma tête. Ça faisait vraiment pas partie des obstacles vers la maternité. Pour moi. Mm-hmm. voilà, et c'est revenu dans ma vie comme une bombe le jour où je suis allée acheter des tests d'ovulation. En fait, je me suis dit, comme j'ai des cycles irréguliers, si je prends des tests d'ovulation, ça va me permettre de savoir quand est le bon moment. Mm-hmm. Et en fait, je me souviens plus comment ça fonctionne exactement ces tests, mais je crois qu'il y a une couleur ou je sais pas quoi quand c'est le bon moment. Ça doit s'afficher pendant 2-3 jours, je crois, positif quand c'est le bon moment. Et moi, ça s'est affiché pendant plus d'une semaine positif. Ouais, voilà, tout le temps. Donc là, je me suis dit, il y a un problème. Et donc, j'ai cherché sur Internet, parce que sur Internet, on trouve n'importe quoi et on trouve aussi des réponses à ces questions parfois. Ouais. Et du coup, j'ai vu que quand on est au PK, les tests comme ça ne fonctionnent pas. Et c'est là où j'ai vraiment compris que, bah, ok, il fallait qu'on ait un petit coup de pouce pour que ça marche.
Et alors, cette prise de conscience, comment elle s'est passée? C'est jamais facile, hein, de se dire qu'on va avoir besoin d'un petit coup de main.
Bah, ouais, c'est assez violent, ouais. C'est assez violent.
Donc, du coup, tu vas voir quoi? Ton médecin généraliste? Ton gynéco?
Je vais voir mon gynécologue, que j'avais depuis un an, enfin, que j'avais vu qu'une seule fois, je crois, pour juste un contrôle annuel. Et donc, je lui explique la situation et donc, il m'explique tout, lui. Il m'explique pas ce que c'est le SOPK en particulier, mais il dit, voilà, pour aller vers la maternité, vous allez faire ça, et si ça marche pas, on passera à ça, et si ça marche pas, on passera à ça. Et il explique tout jusqu'à l'adoption.
Ah, waouh, voilà. Ok. Alors, ça peut être à double tranchant. Comment est-ce que t'as senti? Ça peut avoir un côté rassurant d'avoir un vrai plan d'attaque, ça peut être aussi un peu effrayant. Comment ça s'est passé?
Moi, je l'ai vu comme un vrai plan d'attaque et une vraie aide. Mais je suis quelqu'un de très positif dans la vie, donc ça m'a vraiment pas affolée. En fait, je me dis c'est des choses sur laquelle je peux pas influer. Donc, ben si ça marche pas, ben on passe à l'étape suivante. Si ça marche pas, etc., etc. Et puis si ben on doit aller jusqu'à l'adoption, ben on ira peut-être jusqu'à l'adoption, sachant que j'ai été adopter moi-même, donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours.
Ok. Et alors, qu'est-ce qu'il en a pensé, lui, Papa Man, de ces découvertes?
Papa Man, il est comme moi, il est très optimiste, même plus que moi. Donc, non, il l'a bien pris aussi. Voilà, pas stressé, pas inquiet.
Super, voilà. Donc en confiance.
Prends la vie comme elle
vient. Super. Donc, du coup, votre gynéco, donc, il vous oriente vers un centre de PMA pour commencer cette prise en charge? Comment ça se passe?
Au départ, c'est lui qui nous a donné Clomide et Duphaston pour booster ses cycles et son ovulation.
Ouais.
Donc, on a commencé par ça, ce qui m'a fait bien mal au ventre, mais qui n'a pas fonctionné. Qu'on a commencé par ça, ouais.
D'accord. Et donc, du coup, vous avez fait quoi, quelques cycles comme ça, malheureusement, donc qui ne marchent pas, tu le dis. Ouais. Quelle était donc l'étape suivante dans le plan d'attaque de Super Gynéco?
Bah, Super Gynéco, après, est parti à la retraite. Mais Clomide, on l'a pris, je sais plus exactement, mais je crois que je l'ai pris sur 3 cycles d'affilée. Puis on a fait une pause, puis je l'ai repris. Et puis ça a repas marché, donc on s'est arrêté. Par contre, je suis tombée enceinte en 2015. Et j'avais toujours ce gynécologue-là. Et c'est une grossesse qui n'est pas allée à terme, puisque on est allé faire une écho de contrôle, il nous a dit que le cœur s'était arrêté. C'est après cet épisode qu'il est parti à la retraite et qu'on a changé de plan.
D'accord, ok. C'est un épisode aussi un petit peu traumatique, j'imagine. Vous avez fait une petite pause, peut-être, après tout ça?
Ouais. Donc, moi, j'ai arrêté la pilule en 2013. En 2015, je suis tombée donc enceinte. Et oui, après ça, on n'est pas... on a fait une pause. On a fait une pause, ouais. Je sais plus D'accord. de, je sais plus de combien de temps, mais.
Ouais, non. Besoin de se retrouver. Aussi,
ouais, besoin de se retrouver après tout. Tant d'émotions.
Mmh. Ah ouais, j'imagine. Mmh. Ouais, puis le corps prend aussi un peu cher quand même dans tout ça. Comment est-ce que vous avez fait, parce que du coup, tu le dis effectivement à ce moment-là, ça fait donc à peu près 2 ans déjà que vous vous êtes lancé dans ce projet bébé. Comment est-ce que vous avez vécu tout ça au sein de votre couple? Ça peut être un peu éprouvant aussi quand même. Hein, de... Il n'y a pas que le corps, quoi. Il y a aussi beaucoup le mental, cette attente. Est-ce que vous arriviez toujours à ne pas trop y penser?
Papa Man, oui, il arrivait à pas trop y penser. Mais je sais pas si c'est général ou pas, mais c'est quelque chose que je comprends parce que ça impacte pas leur corps, ni leur quotidien, ni leur physique au niveau des ressentis. Voilà. Nous, quand on a des médicaments à prendre, qui nous font mal au ventre, parce que, enfin, dans mon cas, ça me tirait beaucoup. Et voilà, ou des prises de sang à faire, on peut pas ne pas y penser ou avoir des attentes. Enfin, voilà, c'est très présent, c'est très envahissant.
Ouais, non, c'est clair. Et est-ce que toi, justement, pendant voilà ces mois, ces années d'attente, est-ce que t'as mis en place, je sais pas si c'est un rituel ou une aide particulière pour toi personnellement pour t'aider un peu à traverser ces moments-là?
De rituel, non. J'ai pas mis de rituel en place particulièrement. Par contre, on voyageait. Je crois que ça, je l'ai jamais dit à Papa Man, mais dans un coin de ma tête, je me disais, c'était des petits week-ends, hein, c'était pas des grands voyages forcément. Mais je me disais, c'est des petites choses qu'on pourra moins faire facilement quand on aura un enfant. Et donc, voilà, on peut les faire maintenant. C'est un petit bonus, on va dire.
On a un peu plus de temps prévu pour en profiter.
Voilà. C'est exactement ça.
On profite. Donc du coup, vous reprenez le chemin de ce parcours du coup assisté pour devenir parent. Est-ce que vous continuez du coup sur des protocoles similaires ou est-ce que le nouveau gynéco adapte les protocoles? Qu'est-ce qu'on vous propose à ce moment-là?
Eh ben du coup, on est directement allé à l'hôpital d'Annecy dans le centre PMA. Ben on est reparti à zéro en fait. Du chlomide, hystérosalpingographie, des tests pour Papa Man qui n'en avait pas encore fait lui de son côté.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Okay. Ouais. Et voilà, on repart sur le chlomide qui ne fonctionne pas, voilà. Mais contrairement à la première fois, cette fois-ci, je devais aller faire des contrôles le matin pour voir où ça en était. Et ça, je l'avais pas
eu
la première fois. Oui, des échos.
Voir comment se développent les ovocytes, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis qu'on nous dise, allez, c'est bon, dans 2-3 jours, sauter sur Papa Man, peut-être que ça va marcher. Voilà. C'est toujours d'une grande spontanéité. les rapports. Ça c'est dur à accepter. Il y a des jours où ça colle avec les envies, mais il y a des jours où bon allez, faut y aller. Je crois que c'est ça qui est le plus triste. Ça nous a pas perturbé plus que ça parce qu'on était très sûrs l'un de l'autre de ce qu'on voulait. J'ai trouvé ça très triste. Et maintenant que j'ai un enfant, je suis heureuse de reprendre les rapports sans attente particulière. Enfin, avec vraiment... Voilà, avec 300% d'envie. Voilà.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et comme tu dis, quoi. En plus, surtout quand tu sais que, je sais pas si du coup tu me pardonneras mon analogie, mais t'as une fenêtre de tir un peu limitée, quoi, quand même, dans le mois. Oui. Où on te dit, voilà, c'est maintenant. Les 36 prochaines heures, faut y aller. Et ouais, en fait, non. Enfin, t'as envie d'en avoir envie, mais voilà. Bah, puis surtout quand t'es un peu gavé d'hormones aussi, donc ouais, enfin n'est pas forcément la même qu'en début de parcours, quoi. C'est pas toujours facile.
C'est sûr.
D'accord. Donc du coup, vous faites du coup cette nouvelle approche du protocole avec Chlomide. Comment est-ce que ça se passe ça, du coup? Vous faites ça pendant combien de temps?
Je crois que c'était 3 cycles aussi. On a refait 3 cycles. Et puis ça a D'accord. pas fonctionné. On est parti dans un autre projet, parce que Papa Pan en avait marre de son boulot. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais on avait envie de voyager tous les deux. Papa Pan n'aimait plus trop son boulot. Moi, j'adorais ce que je faisais, mais j'ai quand même suivi Papa Pan parce que j'avais envie de voyager. Et donc, en 2017, on est parti vivre au Burkina Faso.
Oh, génial. D'accord. Donc, nouvelle vie,
Nouvelle vie.
Vous y êtes restée combien de temps?
Papa Matt, un an et moi, un petit peu moins d'un an.
De mémoire, parce que j'avais écouté ton histoire donc dans le podcast d'Anne-Flore. Vous avez vécu aussi un événement hyper, hyper traumatique là-bas, non?
Ouais, on a vécu un attentat là-bas, c'est pour ça qu'on est revenu. Moi un peu plus tôt que mon conjoint, ouais. Ouais, parce qu'on était parti pour y rester bien plus longtemps que ça. Ouais, du coup, c'était pas possible. Émotionnellement, je pouvais pas rester là-bas. Ni lui, ouais. D'ailleurs.
J'allais dire j'imagine, mais non, j'imagine pas parce que j'ai jamais été confrontée à ça, mais je peux tout à fait comprendre que ouais, c'est dur de se projeter quand on a le choix entre se sentir plus en sécurité ou...
Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Mm. Pourtant, on était super bien là-bas. Vraiment, c'est un pays magnifique. Les gens sont géniaux et on s'y plaisait vraiment énormément. Ça a été dur de partir de là-bas.
T'avais retrouvé un boulot, toi, une fois que t'étais là-bas?
J'avais retrouvé un boulot que je devais commencer le lendemain de l'attentat. Voilà, j'avais fait une période d'essai qui s'était très bien passée et je devais commencer le lendemain, ouais. Et j'ai jamais commencé.
D'accord. Donc, du coup, retour... un peu précipité en France. Si mes calculs sont bons, du coup, là, on est en 2018 quand vous revenez ou fin 2017?
Avril 2018. Okay. Et Papa Man,
qu'est-ce qui se passe?
Bah, moi, je reviens en avril 2018. Papa Man revient en juillet 2018. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans un état de choc post-traumatique. Je suis retournée chez mes parents parce qu'on n'avait pas d'endroit où loger. Puis, j'ai trouvé un boulot dans la restauration où on travaille en famille, puisque c'est une partie de ma famille qui bossait dans ce resto. Et je suis barmane, là-bas. Et pendant cette période-là, qui m'aide beaucoup à me reconstruire, à créer des liens, à penser à autre chose qu'à ce qu'on a vécu, et à attendre Papa Man, parce que lui, il est toujours là-bas. Pendant cette période-là, je fais de l'acupuncture avec un médecin génial, qui est à Chamonix. L'acupuncture, j'en avais déjà fait, mais ça m'avait rien fait. Enfin, je veux dire, j'en avais déjà fait dans le sens d'aide
de la PMA,
d'aide à la maternité. Mais j'avais rien senti de particulier dans mon corps ou comme changement ou quoi. Là, dès la première séance, j'ai senti vraiment que ça travaillait, que mes ovaires travaillaient à fond. Pendant la séance et après la séance.
C'est fou, hein?
Ouais. Et c'était assez drôle. J'ai fait trois séances comme ça. La première, j'ai bien senti. Et c'est allé décrescendo. À la fin, je chantais un peu, mais beaucoup moins. On était en juillet. Et puis, en août, j'ai travaillé le mois d'août aussi. Papa Matin était rentré. Après, on a déménagé. Juillet, août, septembre, on a déménagé. Fin août, début septembre, dans la Drôme, où on est en ce moment. Et je suis tombée enceinte, naturellement.
Ça, c'est fou. C'est complètement dingue, d'accord.
Ouais.
Une grossesse sacrément désirée qui arrive finalement, ouais, comme ça, par surprise, quoi, du coup. Enfin, vous calculiez plus à ce moment-là, si?
Non, on calculait plus, non. Moi, j'avais fait l'acupuncture pour m'aider à retrouver mes cycles. Donc, j'attendais que mes cycles reviennent. Et puis, j'avais déjà pris rendez-vous à la PMA de Avignon. Voilà, et on avait déjà tous nos rendez-vous qui était fixé.
D'accord, ok, génial, ouais. D'accord. Et ah ouais, donc du coup, forcément, on se dit, oh mais peut-être que l'acupuncture a sacrément aidé. Est-ce que tu sais comment ça marche? Est-ce qu'on te l'a expliqué comment ça marche? Comment ça agit vraiment sur tes ovaires, cette technique?
J'en ai aucune idée.
D'accord, donc du coup, tu découvres cette grossesse.
Je la découvre un bon mois et demi après.
Parce que tu peux pas être alertée par les retards de règles, du coup, dans ces cas-là.
Bah non. Non. Du coup, je la découvre à ce moment-là. Je fais une digression dans les choses, ouais, qui m'ont aidée à tomber enceinte. Parce qu'elle, ouais, est importante et on n'en parle pas assez, je pense. Il y a l'acupuncture qui m'a aidée. Enfin, forcément, je veux dire, je l'ai sentie et puis, Eva est là, donc beau résultat. Enfin, belle preuve en, ouais, tout cas. Et il y a une deuxième chose, et à chaque fois je dis ça, on y croit ou on n'y croit pas, et si on n'y croit pas, faut l'écouter comme une belle histoire. Il y a tout un côté spirituel / émotionnel qui joue beaucoup, dans le sens où moi je suis allée voir quelqu'un ensuite qui m'a expliqué pourquoi Eva ne pouvait pas s'accrocher et venir dans mon ventre avant. Et là, on rentre dans des vies antérieures, etc. Mais ça faisait beaucoup sens. Voilà, ça faisait beaucoup sens. Et en fait, c'est l'attentat et le côté émotionnel qui m'ont permis de lâcher beaucoup de choses en moi, qui voilà, qui ont fait que bébé va est arrivé après finalement. Voilà.
Alors, quel type de professionnel en fait a pu t'aider dans cette découverte?
Alors je sais pas comment on peut appeler ça. Il y en a qui appelleront médium, mais c'est un terme qui fait un peu peur ou qui peut être
envahissant.
Voilà. Énergéticien aussi. Voilà. Et puis sinon, on trouve vie intérieure ou quoi. Après, je pense que c'est une profession dans laquelle on peut trouver beaucoup de gens qui font ça sans scrupules et sans réel talent. Et je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de trouver quelqu'un par le bouche à oreille sur des forums ou quoi.
C'est comme ça toi, que t'as pu trouver cette personne?
Bah moi, cette personne, je l'ai trouvée parce qu'elle est dans la famille de Papa Man. Et je peux donner son nom, je le donne à chaque fois, mais parce qu'elle a beaucoup de talent. Et voilà. Et elle s'appelle Réminiscence. Vous la trouverez sur Facebook. Elle est pas sur Instagram, mais Réminiscence. Et elle est sur Saint-Étienne. Enfin. Autour de Saint-Étienne.
Super. Et alors comment est-ce que, enfin du coup je suis un peu curieuse, comment est-ce qu'elle procède pour comprendre du coup ce qui peut bloquer,
ce qui se passe et ce qui ouais. Et ben en fait c'est une séance où on est c'est comme une séance de relaxation. On est allongé sur le dos, sur le ventre, avec une petite musique, et puis elle fait le tour de nous sans rien dire, en posant ses mains sur nous parfois non, et ça dure comme ça. J'ai pas trop la notion du temps, mais je pense que ça dure une bonne heure. Et pendant ce temps-là, elle demande des choses, elle capte des choses et elle nous les retransmet après. Voilà.
C'est bien, ça se passe. Et donc c'est quoi? C'est un don ou c'est une formation? Enfin, comment est-ce qu'on fait pour devenir énergéticien? Tu sais,
je sais pas du tout, et peut-être que le terme énergéticien est un peu parce que je crois qu'énergéticien, on peut devenir énergéticien après des formations.
D'accord. C'est peut-être pas le bon mot. Okay.
Ouais, non, c'est pas le bon mot. Je lui demanderai quel est le bon mot pour définir ce qu'elle fait. Voilà. Passeuse de messages, peut-être. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, mais non, en l'occurrence, elle, c'est un don, ça s'est déclaré suite à un événement dans sa vie, mais c'est pas rare les personnes pour lesquelles ça arrive comme ça dans la vie. Il y a une médium, elle a le terme de vraiment médium, elle s'appelle comme ça, qui s'appelle Patricia Daré, et elle est toujours journaliste, très cartésienne, voilà. Très très cartésienne, très je crois en ce que je vois, tout ça. Et puis ça lui est tombé dessus à la naissance de son fils, comme ça.
Ah ouais, d'accord. Et comment est-ce que toi tu as eu l'envie en fait d'avoir recours à cette personne, à ce type de je sais pas si on peut dire de service, de consultation? Est-ce que c'est parce que c'était quelqu'un dans ta famille qui te l'a proposé du coup, ou est-ce que tu savais que ça existait et tu t'es dit bon bah pourquoi pas?
Alors, je savais que ça existait bien avant de tomber enceinte. J'avais lu un livre qui s'appelle Les 9 marches, où ça explique comment l'enfant, comment l'âme de l'enfant nous choisit et vient à nous, ce qu'il pense et ce qu'il vit pendant que nous on est enceinte jusqu'à l'accouchement.
D'accord, tu vois.
Voilà. Et donc, sachant ça, j'avais envie de moi rentrer en lien avec Eva pendant qu'elle était à l'intérieur de mon ventre. Et c'est dans ce sens-là que je suis allée voir cette personne-là pour le faire.
D'accord. Mais c'était avant que tu tombes enceinte?
Non, là, je suis allée voir cette dame pendant que j'étais enceinte. Je crois que j'étais enceinte.
D'accord. D'accord, ok, d'accord, je comprends mieux. Mmh. Super, d'accord. Ouais, c'est super intéressant, effectivement. Donc, je mettrai les Je mettrai les coordonnées, en tout cas, de tous ces professionnels dans les notes du podcast, si les auditeurs veulent les retrouver.
Je voulais juste dire que parallèlement à l'acupuncture ou bien au parcours de PMA médicaux et classiques, ce côté-là était intéressant à creuser pour comprendre pour comprendre peut-être le pourquoi du comment ça vient pas maintenant tout de suite alors que je le veux tellement si fort.
Et qu'est-ce que justement peut-être que voilà ton parcours, ces consultations, qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que peut-être t'aurais aimé savoir avant de te lancer dans ces parcours?
Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir
résumer qu'à une chose.
C'est bizarre, mais j'ai envie de te répondre rien. Je savais que ça pouvait prendre beaucoup, beaucoup de temps. Je l'avais intégré inconsciemment, peut-être du fait que j'ai été adoptée, je sais pas. Rien. Rien.
Bah, tant mieux. C'est que t'as été en confiance et que t'as eu tout ce dont t'avais besoin. D'accord, super. Alors, j'aimerais discuter un petit peu plus maintenant de ce que tu fais justement pour la communauté des PEMET, mais aussi pour les futures et jeunes ou moins jeunes d'ailleurs mamans. Comment est-ce que t'es venue l'idée justement de la création de ce compte Maman Sa Mère sur Instagram?
Bah, c'est drôle, j'en ai parlé il y a deux jours, je crois, sur mon compte. En fait, Eva est née et puis un mois après, elle dormait avec nous en cododo avec un petit matelas au sol à côté d'une autre qu'on avait mis au sol aussi pour l'occasion du coup. Et je lui donnais le sein. Je lui donnais le sein et j'ai trouvé cet instant trop mignon. Du coup, j'ai dessiné un dessin tout mignon parce que je dessinais. J'avais déjà tenu un blog. Quand j'étais partie au Burkina, un blog dessiné. D'accord. Et voilà, c'était assez naturel de dessiner les instants de vie pour moi.
D'accord.
Donc j'ai dessiné cette chose toute mignonne, voilà. Et puis je me suis dit, ça serait sympa d'ouvrir un compte Instagram pour partager ces dessins tout mignons. Et puis j'ai cherché d'autres dessins tout mignons à faire. Et l'inspiration n'est jamais venue.
C'est vrai?
Voilà. Ouais, parce que... Parce que en fait, ça collait pas avec ce que je vivais, même s'il y avait certains instants comme ça qui étaient très mignons et forts et pleins d'amour. Je l'ai écrit il y a deux jours. Je disais moi, mes tétons douloureux, ma fouf en vrac et mes cernes, on n'a rien de mignon quoi. Et c'est pas voilà. Je me disais mais j'ai pas vu d'image comme ça où, pas mignonne et de la vraie grossesse, du vrai postpartum, j'en ai pas ou peu vu.
Ouais.
Du coup, voilà. Et là, l'inspiration est venue à fond.
Voilà. Du coup, tu pouvais vraiment décrire ton quotidien. t'avais matière à dessiner.
Ouais, je crois que j'avais besoin de dédramatiser un petit peu tout ça aussi. Et puis d'en rire un peu parce que je savais que c'était passager, je savais que forcément on passait toutes par là et qu'on avait besoin de le voir tout simplement.
Ouais, non, c'est clair. D'accord. Et donc l'objectif aussi c'est peut-être de montrer donc comme tu dis à ces jeunes mamans qu'elles sont peut-être pas toutes seules en fait dans ces scènes moins glamour de la maternité, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça parle à tout le monde. Voilà. quand je dessine, j'ai pas d'objectif, si tu veux. Sauf quand je pose des questions sur. Il y a pas longtemps, j'ai posé des questions sur mon compte pour connaître les anecdotes des femmes qui avaient eu une césarienne. Parce que moi, j'en ai pas eu et je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'on vit. Après, je sais pas ce que fait la cicatrice, je sais pas ce que ça implique. Donc là, mon objectif, c'est de parler de la césarienne et puis d'en faire quelque chose. Mais sinon, quand je dessine, j'ai pas d'autre objectif que de rire de ce qui m'arrive en général ou de ce qui arrive à mes abonnés qui m'envoient des anecdotes assez savoureuses parfois.
Il y a quelques mois, il me semble, tu as aussi justement commencé à faire des dessins pour expliquer. Alors, de mémoire, tu avais commencé par ce que c'était justement le syndrome des ovaires polykystiques qui, pour rappel, touche, crois, une femme sur 10 dans le monde. Donc, c'est absolument énorme comme proportion, mais qui est finalement assez méconnu, alors, des femmes, des patients, mais aussi des médecins. Et du coup, ce qui explique qu'il est si difficile à diagnostiquer. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à partager peut-être cette partie de ton histoire qui t'a aidé donc à devenir maman, mais aussi qu'est-ce qui t'a poussé à dessiner ça?
Eh ben, il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à le faire. La première, c'est que quand j'ai commencé à parler du fait qu'on était en parcours pour avoir un enfant, que j'avais des ovaires polykystiques et que c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Quand j'ai commencé à le dire, à l'époque j'étais prof de danse et j'avais beaucoup de femmes autour de moi, principalement des femmes d'ailleurs, de la vingtaine, la trentaine. Et quand j'ai commencé à en parler, je me suis rendu compte que on était beaucoup à faire ce parcours-là et à avoir les ovaires polykystiques. Voilà. Et qu'entre nous, alors moi je le savais parce que je m'entretenais de une personne à une personne. C'était pas une annonce de groupe et un groupe de parole collectif. Mais je me suis dit, c'est dingue que dans mon petit groupe de danse où on est quelques filles, on soit autant de filles touchées que personne le sache entre elles, en fait, entre nous. Enfin, à part moi. Elle le savait pas entre elles. Et moi, j'en entendais jamais parler. J'entendais beaucoup parler de l'endométriose. Et c'est formidable qu'on en parle. Et je ferai une story dans le même genre que le SOPK pour l'expliquer, de façon rigolote, même si c'est pas une maladie rigolote. Mais donc ça m'a poussée à le faire, à expliquer. Et la deuxième chose, c'est ça, je voulais qu'on en parle au même titre que l'endométriose qui touche autant de femmes, une femme sur 10. Voilà. Je voulais en parler au même titre que l'endométriose. Je voulais rendre justice aux femmes atteintes du SOPK dont on ne parle jamais.
Effectivement. Tu as fait ça d'ailleurs avec beaucoup et de délicatesse et d'humour. Et franchement, je te remercie. Je crois qu'on l'avait partagé d'ailleurs sur le compte Instagram du podcast. J'aimerais te poser en fait la question de la libération de la parole. Tu fais un énorme travail en fait pour libérer la parole, donc que ce soit donc sur le postpartum, ce que ça en est vraiment, ce qu'on ne nous dit pas, je dirais. Quand on nous prépare énormément au fait de comment est-ce que ça va être de vivre sa grossesse, comment est-ce que ça va être d'élever un enfant, mais finalement il y a cette espèce de zone grise
de no man's land.
No, exactement, qui est dur à appréhender, qui dure plus ou moins longtemps selon les femmes. Et effectivement, on nous prépare pas du tout à tout ça. Et voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu.
Ben déjà, je me rends pas du tout compte qu'il y a un côté militant dans mon compte. Ça me semble bizarre de t'entendre le dire. Je comprends dans le sens dans lequel tu le dis, mais pour moi, ça me semble extrêmement bizarre. Parce que je me sens pas du tout militante.
Je crois que c'est militant de choses qui devraient peut-être pas être des choses pour lesquelles on milite, parce que ça devrait peut-être être un peu plus naturel. Mais en tout cas, tu le fais avec beaucoup de talent.
Mais c'est gentil. Mais pour le postpartum, en fait, je crois que ça vient tout simplement du fait que, de mon histoire, pardon d'encore parler de moi. En fait, comme j'ai été adoptée, j'ai pas eu de récit de grossesse de la part de ma maman. Ou de photos d'elle enceinte, tout simplement. J'ai un petit frère que moi je suis allée récupérer à l'aéroport. Donc c'est aussi une histoire particulière. Bah comme beaucoup en fait les femmes autour de moi que j'ai vues enceintes et qui ont accouché, eh ben j'ai pas su le postpartum, j'ai pas su les galères, je les ai pas vues non plus et elles en parlaient pas. Pourtant elles ont forcément dû passer par les mêmes galères et du coup quand moi je l'ai vécu comme j'avais un tableau blanc en fait de ma vie de ça. J'avais pas d'historique, pas d'image, pas de récit. Bah j'ai eu envie de tout dire. Voilà, ça vient simplement de là en fait, mon envie de le montrer et d'en parler.
Ouais. Bon, en tout cas, tu le fais avec beaucoup de talent et je t'en remercie parce que C'est clairement nécessaire. Et c'est rigolo parce que, je sais pas pour toi, peut-être que tu étais déjà très connectée à Instagram avant la création de ce compte-là, mais je trouve qu'Instagram... En fait, moi, j'ai découvert, tu vois, personnellement, il y a peut-être un an et demi, deux ans, une communauté que je ne soupçonnais pas, que ce soit en fait tout autour de la femme, quoi, tu vois. Donc, il y a une grosse communauté sur la PMA, il y a une grosse communauté sur la maternité, il y a une grosse, enfin, et je trouve ça génial, en fait, parce qu'on y trouve énormément d'aide, on y trouve énormément d'informations, et j'aurais jamais soupçonné qu'on puisse trouver ça sur les réseaux sociaux auprès d'illustres inconnus, quoi. Voilà, c'était ma petite remarque cucu. Je trouve ça assez génial.
Non, c'était pas cucu. Mais d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle d'amour et de communauté et tout ça, on parle de cucu, où on trouve ça un peu gnangnang, mais non, mais pas du tout. Au contraire, je vais prôner l'amour et tout, mais vraiment, faudrait pas que ça soit vu comme cucu. Je savais pas qu'il y avait une aussi grande communauté aidante et soudée autour de la maternité, de la femme et tout ça, avant de créer ce compte Instagram. Je savais pas non plus. J'ai trouvé ça génial et je trouve encore ça génial tous les jours.
J'ai découvert des comptes
géniaux et qui me font rire et qui, ou parfois pleurer, mais en tout cas qui me font du bien. Il y a une page qui s'appelle « Je n'aime pas être enceinte ». Et rien que le pseudo de la page, c'est très libérateur. Voilà, parce qu'il y a plein de femmes qui n'aiment pas être enceintes pour tout un tas de raisons.
Qui peuvent en avoir rêvé, mais une fois qu'elles en sont enceintes, ou d'ailleurs qui peuvent aussi ne pas en avoir rêvé, mais effectivement, une fois qu'on arrive en fait à ce fameux test positif, tous les chemins sont pas les mêmes, quoi. C'est vrai que c'est assez intéressant.
Entre le rêve, la réalité, tout ça.
Exactement. Puis comme tu le dis, en fait, on n'est pas préparé à ce qu'on va vivre. On ne sait pas vraiment ce qu'on va vivre.
C'est une première fois.
Dis-moi, j'aime bien poser cette question à mes invités. Si tu avais un conseil, en fait, peut-être à donner à un couple qui va se lancer dans un parcours, voilà, enfin en tout cas qui cherche à devenir parent, qui a décidé de se lancer dans un projet bébé, mais voilà, chez qui ça semble prendre un petit peu de temps que prévu. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un petit conseil à leur donner?
Il y a une petite phrase qui m'a beaucoup aidée et que j'ai pas arrêté de me dire quand j'étais au creux de la vague. Et Dieu sait qu'il y en a des creux de la vague dans un tel parcours. C'était chaque jour qui passe te rapproche de ton enfant. Et voilà, et s'accrocher à ça, peu importe le parcours et le temps. Voilà, un jour qui passe, c'est un jour en moins et un jour de plus près de ton enfant. C'est le seul conseil que j'ai à donner.
Se concentrer sur l'issue, en fait, et pas forcément sur tout le chemin. Bah, c'est super.
Pas sur le moment.
Ouais, non, mais t'as complètement raison. Et ça permet peut-être effectivement de sortir la tête de l'eau quand on a l'impression que ça avance pas. Et voilà, on en parlait dans un épisode récemment. Effectivement aussi, je trouve, en tout cas moi personnellement, c'est l'attente, donc on le sait, hein, qui est difficile, nos nerfs qui sont mis à rude épreuve. Et je pense que, enfin, c'est sûr que ce serait beaucoup plus facile si on me disait, mais c'est sûr, genre, tu vas devenir maman à un moment donné. Et finalement, bah, si c'est dans 10 ans, ok, c'est dans 10 ans, c'est pas grave. Mais le fait de savoir que ça marchera un jour, on vivrait les choses beaucoup plus cool. Mais c'est vrai que cet inconnu et cette attente sont difficiles à gérer.
C'est sûr.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'un des rituels que vous aviez mis en place plus ou moins consciemment pour aider un peu ton couple avec Papaman pendant tout votre parcours, c'était les voyages, plus ou moins loin d'ailleurs. Est-ce que vous avez mis quelque chose d'autre en place ou est-ce que justement tu as d'autres idées a posteriori, quelque chose que tu ferais différemment?
J'en profite pour dire, parce que ça va avoir un rapport, tu vas comprendre, sur ma page Instagram, j'ai mis en place maintenant régulièrement, je vais parler de bande dessinée. En relation avec la maternité, parentalité, tout ça, les enfants et les parcours pour avoir des enfants. Et le prochain livre que je vais présenter, il s'appelle Rien ne se passe jamais comme prévu. Et à l'intérieur de ce livre, c'est là où ça va répondre à ta question, parce que j'ai trouvé que c'était un super truc à mettre en place. Donc c'est un couple, hein, qui sont en parcours PMA la femme a des piqûres à se faire faire. Et son homme, pour la motiver, parce qu'elle est vraiment au bout du bout, son homme, pour la motiver, je sais plus s'il lui a fait des petites cartes, mais en tout cas, toutes les 5 piqûres, il lui offre un petit cadeau.
Comme un bon point.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et alors moi, j'ai pas eu à faire de piqûres, mais je pense que ça peut être super, super motivant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'aurait motivé. Voilà, j'aurais trouvé ça le parcours, j'aurais trouvé le parcours un peu plus sympa.
C'est une super idée. Et c'est une idée géniale, l'idée des BD. Alors personnellement, moi je suis une grande grande fan de BD, donc je suis intéressée fois mille. Et alors je sais pas si tu avais écouté cet épisode il y a quelques semaines qui est sorti de Claire qui nous parlait de la naprotechnologie pour devenir maman, et sa BD sort la semaine prochaine.
Alors je connais si ça... pas du tout. Naprotechnologie, déjà je connais pas du tout.
En fait, c'est un peu comme la PMA, mais de manière très naturelle. On essaye de... Alors, bien sûr, il y a un fond de médecine à tout ça. On fait des échographies, des prises de sang. Mais on essaye, en fait, d'aider à la procréation en suivant beaucoup plus les signes de son corps. Et
d'accord.
Voilà. Et donc, elle est tombée enceinte comme ça. Et sa BD s'appelle « Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants ou pas ». Voilà. Donc,
okay.
Je l'ai pas encore lu. Je sais que j'ai hâte de la découvrir. Et c'est une dessinatrice aussi que j'aime beaucoup. C'est rigolo. Tiens, d'ailleurs, t'es notre deuxième dessinatrice sur le podcast, du coup.
Ah oui.
Enfin, voilà. Écoute, maman, sa mère, je te dis un immense merci. Est-ce que t'aurais un petit mot, d'encouragement, un petit mot pour terminer, en tout cas? Est-ce que t'as quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on se dise au revoir et qu'on te laisse tranquille avec ta super vie avec Papa Man et Bébé Va?
Déjà, je voulais te remercier toi pour l'invitation, et puis remercier tous les abonnés qui me suivent tous les jours, parce que je trouve ça dingue et génial. Et puis pour terminer, je dirais ça va aller à tous les parents qui sont en parcours de PMA, à tous les parents qui essayent sans parcours PMA, aux jeunes mamans qui sont en plein travail ou qui viennent d'accoucher, qui sont en plein postpartum ou peut-être en dépression, au final, ça va aller.
Ouais.
Voilà.
Et t'as raison. À nouveau, hein, se concentrer sur l'issue, et t'as complètement raison. Écoute, je te dis vraiment un immense merci d'avoir pris cette petite heure pour discuter avec moi, pour me raconter votre histoire. Je te souhaite, tout plein de bonheur. On continuera de te suivre sur les réseaux, et puis je te dis à très bientôt.
Eh ben, merci, et je te souhaite le meilleur avec ton podcast aussi.
Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à mon invité pour son partage, et merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 étoiles au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram @alorscestpourbientôtpodcast, et pour témoigner, direction le site internet alorscestpourbientôtpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.